Je me réjouis de cette série qu'on va démarrer pour cette fin d'année autour du livre d'Ésaïe. Ce matin, je vous propose de survoler le premier chapitre. Donc Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu il y a déjà plus de 2600 ans. Imaginez-vous, ça date. Alors un prophète, qu'est-ce que c'est? Je vais simplement vous simplifier cela. C'est d'abord un porte-parole de Dieu. Il parle, il écrit au nom ou à la place de Dieu. Et il parle à ses contemporains avant tout. Avant de parler simplement d'avenir, il parle à ses contemporains. Ésaïe, considéré comme le plus grand prophète après Moïse. Alors on sait très peu de choses sur sa vie. Ce qu'il met en avant, c'est son message. Un message qu'il donne de la part de Dieu. Néanmoins, nous savons qu'il vit à Jérusalem, auprès du peuple de Juda. Il a côtoyé et vécu sous plusieurs rois. Il a eu un engagement public de plus de 40 ans. On découvrira, vous verrez au fil des semaines, que c'est quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui a accès aux sphères hautes de la société, qui a accès au roi, un homme d'une grande culture générale, qui connaît le contexte social, contexte politique, financier, religieux de son temps et de son peuple. Il a vraiment un vocabulaire très riche. Il a des allusions à l'histoire, à la politique, à la nature humaine, aux sciences naturelles, et on en passe. Et il a un message qui ne plaît pas à ses contemporains. Mais il les délivre tels que Dieu les demande. Alors je vous propose de prendre Ésaïe, je vais le lire. Voilà, il va être long, mais que la parole de Dieu puisse vraiment être au centre aussi ce matin de ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce prophète Ésaïe. Ce premier chapitre sert quelque part de prologue. Ce chapitre sert d'introduction, de prélude, quelque part au livre, au message du prophète, et qui va être dévoilé tout au long du livre. Et j'en dis pas plus. Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La terre entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté et vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai l'horreur de l'encens. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous se verrez dévoré par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Comment ? La ville fidèle est devenue une prostituée ? Elle était remplie d'équité, de justice. La justice y habitait, et maintenant il y a des assassins ? Ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et à la cause de la veuve ne les touche pas. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires. Je me vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi. Je te débarrasserai de tes impuretés comme avec de la potasse et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Sion sera rachetée par la droiture et ceux qui s'y convertiront par la justice. Mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébintes auxquels vous prenez plaisir et vous rougirez des jardins que vous avez choisis. Car vous serez pareil à un térébinthe au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre, et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Amen. Long passage, hein. Mais pour introduire Ésaïe, je crois que ça en valait le coup. Il ne passe pas un jour sans que l'actualité nous parle d'un fait de corruption. Des accusations sont faites à l'égard, à l'encontre de personnes, à l'égard d'hommes politiques, de groupes financiers, d'industriels, et on en passe. Actuellement aussi, c'est un peu la mode d'être des lanceurs d'alerte, d'être des personnes qui ont connaissance de ces malversations, d'un danger par exemple d'un produit, d'un risque, d'un scandale, sur des dégâts sur l'environnement par exemple. Et leur rôle est d'interpeller, de susciter la conscience de leurs contemporains. Il est de l'intérêt de rendre public, de rendre audible cette situation, d'être des lanceurs d'alerte. Depuis des siècles, des accusations sont portées contre Dieu. S'il existe, s'il est bon, pourquoi tout ce mal ? Et bien évidemment, pourquoi tout ce mal commis en son nom ? Vous avez sans doute déjà dû entendre ça. On n'a pas besoin de revenir simplement aux croisades où la chrétienté se sentait armée de vouloir conquérir un territoire au nom du Christ. On n'a pas besoin d'aller jusque-là pour dénoncer les mauvaises actions faites au nom de Dieu. L'islam fait tellement de choses au nom de Dieu. Ces derniers jours, les scandales sexuels qui agitent l'Europe notamment, Pays-Bas, Allemagne, qui secouent l'Église catholique. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour se dire « Il est où Dieu ?» de ceux qui parlent de son nom. On connaît tous quelqu'un qui a été blessé par l'attitude d'une église, qui a été blessé par des chrétiens, ou qui a attendu que ces chrétiens autour d'eux agissent bien différemment, ou qui ont laissé un mauvais témoignage. Pourquoi ceux qui se revendiquent de ce nom se comportent de façon si répréhensible, si condamnable, si mal parfois ? Pourquoi l'église est-elle aussi incohérente ? Les chrétiens sont-ils aussi incohérents ? Aussi inconséquent. En fait, c'est des arguments pleinement valables pour un athée. De dire, regardez, les chrétiens, ils annoncent au nom de Dieu. Et c'est vrai que pour nous, en tant que chrétiens, ce genre d'interrogation peut paraître aussi gênante. C'est l'échec, quelque part, de notre témoignage. On souhaite qu'une église rayonne, puisse accueillir chacun, et puis, voilà, on fait du mal, on blesse. Cette différence entre notre discours, entre notre foi et nos actes. Et ce premier chapitre que je vous propose de voir, de parcourir ensemble ce matin, courtement, on ne va pas pouvoir tout voir, mais c'est aussi cette problématique de l'échec du peuple de Dieu. Et c'est un échec qu'on pourrait résumer en deux mots, rébellion et incohérence. Sauf que ce message que nous avons entendu d'Ésaïe 1, ce n'est pas le monde athée, le monde qui dénonce le comportement des chrétiens. Non, c'est Dieu lui-même qui dénonce l'attitude de son peuple. Et Ésaïe utilise la forme d'un procès pour accuser son peuple. Alors je vous propose de parcourir ce chapitre en trois temps. On voit que Dieu dénonce, dans les premiers versets, du verset 2 au 15, il dénonce le comportement de ceux qui se revendiquent de son nom. On voit dans une deuxième partie que Dieu lance un appel à écouter, à changer de direction. C'est le cœur de ce chapitre. Et puis enfin, Dieu annonce ce qu'il va faire en réponse, en réaction à cette situation, à ce constat. Et quel est l'objectif de ce texte? Ésaïe souhaite rappeler, nous convaincre que malgré ce constat que le peuple a échoué, que Dieu reste aux commandes, que son projet subsiste, que son plan se poursuit et qu'un reste de son peuple va être sauvé et va lui appartenir. Alors regardons dans un premier temps ce que Dieu dénonce, du verset 2 au verset 15. En fait, on est devant un réquisitoire, c'est très violent ce qu'il dit. Il présente cela comme une rébellion du peuple. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est parce qu'il faut se mettre dans le contexte. Au moment où Ésaïe écrit ça, le peuple d'Israël vit une belle période. On considère qu'ils sont à la fin de 20 ans de paix. Contrairement à Israël, hein, il faut savoir que Israël a été séparé en deux entre Juda et Israël depuis pas mal d'années. Israël, voilà, ben, ils ont fait à leur tête, mais Juda se porte pas mal, pas trop mal. Mais Dieu a un tout autre regard sur ce peuple. Et il le dit par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe. Et c'est Dieu qui accuse, et il va fort. Il dénonce d'une part une rébellion, et une rébellion qui est même choquante. Lisons le verset 2 simplement. Si elle écoute, terre prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le problème que va soulever Ésaïe tout au long de ce livre, c'est le problème de la nature humaine. C'est la rébellion, la révolte contre Dieu. Et la révolte, c'est au cœur de ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est la révolte envers Dieu. Et c'est une attitude choquante. Pourquoi ? Ben là, il prend l'image d'un enfant envers ses parents. Alors, ceux qui sont parents comprendront l'image. Pendant des années, vous prenez soin de votre enfant. Alors, quand nous, on a des nouveau-nés, on les change, on prend soin d'eux, on les nourrit. On est autant que possible, on subvient à leurs besoins, on les accompagne tout au long de leur phase de vie. Et puis, à 18 ans, le gamin qui dit « Ciao !» Je veux plus de relation avec vous, papa, maman. Tu ne fais plus partie de ma vie. Vous imaginez ça? C'est ce que Dieu est en train de dire de son peuple. Je vous ai nourri, je vous ai accompagné pendant toutes ces années, et puis du jour au lendemain, je ne veux plus de toi, tu ne fais plus partie de ma vie. Quel déchirement! Et c'est même pire, le verset 3, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Les animaux ne se comportent pas comme son peuple. Les animaux connaissent leur propriétaire. Pour ceux qui ont un chien, le chien connaît son propriétaire. Mais Dieu est en train de dire de son peuple, vous, vous ne me connaissez pas, alors que même les animaux me reconnaissent. Cette rébellion, c'est de la folie. Vous n'avez pas cette intelligence de comprendre. Et cette rébellion, elle est personnelle, elle est tournée vers Dieu. Verset 4, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. Il est question d'abandon. Ils ont méprisé Israël. C'est clairement dirigé contre Dieu, cette rébellion. Alors le péché, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on n'aurait pas voulu faire. Tel acte, telle situation qu'on voudrait n'avoir pas fait, les choses dont on a honte parfois de faire. Ce n'est pas juste rouler à 90 alors que c'est 80 qui est autorisé. Non, le péché, c'est personnel. Avant d'être commis un mal envers soi, c'est un mal commis envers Dieu. Avant d'être un mal commis envers les autres, envers la société, c'est un affront personnel commis envers Dieu le Créateur. Dieu le Père, Dieu le Souverain. Vous m'avez trahi. Dans les relations humaines, réfléchissez à ce qui fait le plus mal. Qu'est-ce qui est le plus détestable? Qu'est-ce qui nous fait le plus de peine? En fait, c'est la trahison d'un ami. C'est le volte-face. C'est l'abandon de quelqu'un qui nous était cher. De quelqu'un qui était proche, avec qui on avait partager des temps extraordinaires et qui, du jour au lendemain, pour une raison, pour une affaire, pour une situation, vous tourne le dos et vous dit du mal. Ça fait mal, cette situation-là. Et c'est ce que fait le peuple de Dieu. Ils étaient proches, puis se sont éloignés. Et si nous poussons même encore plus loin de ce qui nous est dit dans le texte, c'est une rébellion qui est même irrationnelle. On les voit dans le verset 5 à 6. Un abandon tel que la punition, les difficultés, les coups durs ne peuvent même pas lui faire retrouver la raison. Je vous lis verset 5. À quoi bon vous frapper encore ? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Un abandon, une rébellion telle que même les situations difficiles de la vie ne permettent pas de retourner à Dieu. Et là encore, je reprends une image de la famille. On est confronté à la colère des enfants, qu'on soit d'ailleurs parents, éducateurs ou même enseignants. Imaginez-vous la colère d'un enfant dans une rue, dans un supermarché, ou simplement lorsque vous leur demandez simplement à l'enfant d'aller se brosser les dents, d'aller enfiler la veste. L'enfant s'oppose et il fait une colère. Et là, vous faites tout pour essayer de le calmer. Vous tenez ferme, déjà. Vous essayez de le raisonner. Vous lui montrez votre affection. Vous lui essayez de le faire penser à autre chose. Vous allez parlementer. Vous allez peut-être faire des menaces. Parfois, quand on est en supermarché, on entend des parents qui font des menaces. Si tu ne te calmes pas, je te laisse là. Vous prenez du temps. Vous le mettez peut-être à l'écart pour essayer de le calmer. Et rien n'y fait, cet enfant poursuit dans sa colère. Il ne se calme pas. Au contraire, cette colère est devenue irrationnelle. Vous vous dites, c'était pour mettre une veste. Il est insensible à tout ce que vous pouvez proposer. Et ici, c'est la même chose, c'est la même image que Dieu est en train de dire de son peuple. Quelque part, on est aussi de grands enfants. C'est ce que Dieu dit ici. Ce n'est pas juste le peuple d'Israël que Dieu est en train de s'adresser, il s'adresse aussi à nous. Réfléchissons. La punition, les choses difficiles de la vie ne nous permettent pas parfois de nous raisonner. Quand on réfléchit à toutes ces choses qui nous détruisent en tant qu'humains, on est irrationnel dans bien des situations. On sait, l'alcool, la cigarette, ça détruit. Ça nous fait du mal, mais on continue. On sait que le désir de posséder, d'avoir des richesses, d'avoir besoin de ça et ça, on n'est pas satisfait et pourtant on continue. On sait que la colère, on sait que les potins, on sait que le dénigrement des personnes, la comparaison, tous ces comportements, nous savons qu'ils sont mauvais. Mais on continue de les vivre. Et elles sont plus fortes que nous, on ne peut pas résister. C'est ce que Dieu est en train de condamner son peuple. Et c'est une rébellion qui est aussi destructrice. Elle est non seulement irrationnelle, elle est aussi destructrice. Ce n'est pas encore arrivé pour Israël, mais ça va arriver. Ce que Ésaïe annonce, c'est une prophétie, là, de son appel. Voilà ce que deviendra votre cité, versets 7 et 8. Votre pays est dévasté, mais il le dit au présent. Vos villes sont réduites en cendres, des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. La ville de Sion a survécu, mais elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres. Quelle image ! Votre rébellion vis-à-vis de moi vous conduit tout droit à la catastrophe. Et on le verra dans la suite d'Ésaïe. Et que vous connaissez l'histoire d'Israël, vous le savez. Ils vont être déportés, ils vont être rayés de la carte, on pourrait dire. Ce qui est choquant. C'est choquant de voir ainsi. Sion, Jérusalem, la céleste, le temple. C'est comme si on imaginait l'Élysée, le Louvre, enfin, nos joyaux de la France, là, notre capitale. Rayé de la carte, et au final, c'est quoi ? C'est une petite cabane de tôle dans un champ de concombres. Voilà ce qui restera si vous restez dans votre rébellion de votre pays. Et on arrive un peu au terme de cette portion, mais ce qui est choquant, ce n'est pas tellement le mal qui est visible. Cette rébellion qui est manifeste. Mais c'est que dans cette situation, un vestige de bien peut subsister. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La question, ce n'est pas pourquoi il y a tant de mal dans le monde. Quand on nous regarde, quand on voit comment le monde se comporte, c'est logique. La réponse est évidente. Mais la vraie question est comment c'est encore possible qu'il y a du bien ? Que du bien est encore possible ? Et Ésaïe le soulève ici au verset 9. Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Si l'Éternel n'avait pas permis qu'il y ait du bien, qu'il y ait un reste, nous serions pareils à Sodome, à Gomorre. Alors Sodome et Gomorre, hein, c'est Des villes dans l'Ancien Testament, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent d'une ville détruite, ravagée. Alors j'ai réfléchi à des images, c'est Pompéi, pour ceux qui sont italiens, complètement détruit par l'éruption de Vésuve. C'est peut-être Hiroshima pendant la guerre mondiale, ravagée complètement. Sodome et Gomorre, c'est des lieux où le jugement de Dieu s'est abattu et qui a consumé totalement ces deux villes à cause de leur perversité, à cause de leur abandon de Dieu. Seule la grâce peut expliquer que nous ne sommes pas totalement anéantis. C'est ce que dit Ésaïe. Vous n'êtes pas totalement éradiqués parce que je vous ai conservé un reste. Waouh! On sent la force, l'intensité du propos d'Ésaïe. Et pourtant, ce n'est pas fini. On commence Ésaïe. Hein. Et si on poursuit, c'est encore plus fort. C'est le deuxième, non, un deuxième aspect de cette désobéissance, de cette incohérence. Dieu dénonce cette incohérence. La première surprise, c'est que la nation, ce n'est pas une nation anarchiste, pas de Dieu. Ce n'est pas une nation athée. Ce n'est pas une nation communiste où il n'y a pas de place de Dieu. Mais au contraire, vous l'avez entendu, ils offrent un culte à Dieu. C'est une nation profondément religieuse. On pourrait dire les églises sont pleines. Les cultes sont dynamiques, sont entraînants. Il y a de la ferveur, il y a de l'entrain. Les collectes, les offrandes, on parlait de collectes dimanche dernier, là, elles sont en hausse, il n'y a pas de problème. Il y a de l'engagement, il y a du service, il y a des offrandes. Le programme de l'église est plein, il y a des fêtes, il y a des rencontres. La religion se porte bien. Relisez simplement le verset 11 et suivant. Le parvis est bondé de monde, il y a des offrandes, de l'encens, des sabbats, des convocations aux réunions, des fêtes, des débuts de mois, des mains qui sont tendues vers Dieu, des quantités de prières. On peut vraiment dire qu'il n'y a pas de crise du culte ici. C'est Dieu est en train de dénoncer cette rébellion, mais il y a cette incohérence. Et cette incohérence pour ce peuple qui est religieux, qui se tourne vers Dieu. Mais la deuxième surprise de cette incohérence, c'est que cette religion, elle est insupportable aux yeux de Dieu. Regardez ce qu'il en dit. « Que m'importe la quantité de vos sacrifices. Je suis rassasié, je ne prends aucun plaisir. Qui vous demande de piétiner ce parvis? Cessez, j'ai horreur de l'encens. Je ne supporte pas, je déteste. » Waouh! Un peuple qui montre sa piété. On le voit, ça se voit. Hein. Ésaïe est en train de dire, ça se voit, ça s'entend. Il y a de la joie dans le culte. Mais Dieu ne le voit pas comme ça. Ce n'est pas parce que des stades sont pleins pour Dieu. Ce n'est pas parce que des milliers, des centaines sont rassemblés dans une belle ambiance que Dieu est réellement à l'honneur et que Dieu reçoit ce moment. Dieu n'écoute pas ce que le peuple est en train de faire vis-à-vis de Dieu. Waouh! C'est quoi le problème? Le problème, c'est l'incohérence du lundi matin. Le dimanche matin, c'est nickel. Tout est nickel. On est ensemble pour adorer Dieu. Mais le problème, c'est ce qui se passe après. Après avoir adoré, servi, loué, donné, leur comportement est incohérent. Et c'est ce que dit Ésaïe ici. Ils rentrent chez eux et sont en colère avec les membres de leur famille. Ils font des calculs pour profiter du système. Ils méditent sur ce qu'ils peuvent faire pour rendre la monnaie de ceux qui lui auront fait du mal. Ils fantasment sur leur prochain achat, ils tombent dans l'adultère, la dépendance, etc. La religion ne fait qu'aggraver leur cas. Dieu déteste cela. Vous savez, les valeurs qui nous tiennent à cœur, souvent en tant qu'hommes, c'est la justice, la droiture, l'équité. Mais on a tellement du mal à tenir la justice, à être droit. Voilà ce que Dieu reproche à son peuple. Dieu reprend son peuple. Il accuse de leur incohérence entre leur culte et leur vie. Cette injustice associée aux célébrations. Et dans sa demande, on le voit après, au verset 13, on découvre qu'ils font mal, ils ne font pas du bien. Ils sont des criminels, ils sont injustes, ils font du tort, il y a l'oppression, il est parlé d'exclusion, ils ne prennent pas soin des exclus, des veuves, des rejetés, etc. Le peuple, oui, adore Dieu, et ça se voit, waouh! Le temple est rempli. Mais le fond, il est mauvais. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'au milieu de tout ça, Dieu fait, et c'est le verset 10, et c'est le deuxième point que je voudrais voir, c'est que Dieu appelle. Dieu, en plein milieu de cette accusation, de ce qu'il dénonce et est en train d'appeler. Il n'est pas encore trop tard. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige, même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine, etc. Il n'est pas encore trop tard. Dieu lance pas moins de 10 appels en quelques versets, 2 versets, 2-3 versets. 4, éloignez-vous du mal. 5, pratiquez le bien envers les autres. Et 1, écoutez-moi. Un appel à l'obéissance. Ce que Dieu veut, ce n'est pas votre culte, ce n'est pas votre adoration, ce n'est pas votre célébration, c'est vous qu'il désire. Il veut notre cœur, il veut notre écoute, il veut notre obéissance. Je veux ton cœur, Dieu est en train de dire. Je veux ton écoute, je veux ton obéissance, je te veux en entier. Et c'est important de nous rappeler cela dans un temps comme ce matin que nous sommes en train de vivre. Parce que peut-être ce matin, vous vous êtes dit, qu'en venant ce matin au culte, vous vous êtes dit, je vais faire quelque chose de bien. J'aurais pas pu aller autre part. Enfin, vous auriez pu. Hein. Réfléchissez à toutes ces choses que vous auriez pu faire, et vous le savez. Une balade, il fait beau dehors. Une grasse mat, vous auriez pu aller à la pêche. Voir des amis, de la famille. Et nous en connaissons, certains qui ont fait ces choix-là. Et ils n'étaient pas si mauvais que ça. Ils sont bien bien. Mais non, vous vous êtes peut-être dit ce matin, non. Je vais faire quelque chose qui va faire plaisir à Dieu. Je vais quelque part booster son ego. Je vais être présent si je vais au culte. Et si au passage je me fais du bien, c'est tout bénef. Rien que parfois cette formule qu'on utilise maladroitement, je viens dans la présence de Dieu. Pour parler de ce temps à part. Alors c'est vrai, on vit des temps à part. Mais si le reste de notre temps, mais si le reste de notre vie, si le reste de mes dépenses, de mes choix de carrière, de ma sexualité, de mes occupations, je les fais sans me préoccuper de Dieu, où est la cohérence ? Le moment de ce temps que nous voulons vivre est-il cohérent avec le reste de ce que je vis quotidiennement ? Je relis simplement le verset 15. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous-même. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. C'est l'incohérence. Il veut notre cœur. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, le culte, on appelle ça le culte, je trouve que c'est tellement maladroit. Parce que dans le Nouveau Testament, le culte, ce n'est pas la réunion des chrétiens. Ce n'est pas cette rencontre qu'on a dimanche après dimanche. Mais le culte, dans le Nouveau Testament, ce langage est utilisé pour l'ensemble de notre vie. La vie chrétienne devrait être un culte. On véhicule déjà quelque part un message incohérent en disant « Allez, venons ce matin au culte. » Romains 12, hein ? Non, ouais, Romains 12, verset 1. « Je vous encourage donc, c'est Paul, hein, frère et sœur, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, comme un culte raisonnable. Ce sera de votre part un culte raisonnable, saint, agréable à Dieu. » Le Nouveau Testament, c'est ça. Le culte, c'est votre vie. C'est vrai qu'on cloisonne tellement les choses. Ça fait partie de ma vie avec Dieu. Ça fait partie de ma vie personnelle. Ça, c'est ma vie de famille. Ça, c'est ma vie de travail, professionnel, etc. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Le moment, ce matin, que nous vivons n'est que cohérent si, avec ce que nous vivons le reste de notre vie. Ésaïe est en train de le dire. Le Nouveau Testament nous le rappellera. Votre culte, c'est votre vie, c'est votre cœur, c'est tout. Ce n'est pas vos réunions, mais nos vies. Écoutons Dieu. Voilà ce qui est le plus difficile. Dieu appelle. Et même là, nous savons que nous ne pouvons pas changer le fond des choses. Et Dieu montre aussi, et je l'ai lu dans les versets 18 notamment, que Dieu, c'est encore lui qui doit opérer ce changement, que c'est lui qui doit transformer en profondeur. Un salut est possible, une solution est possible, mais c'est lui qui peut le transformer. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme de la laine. C'est moi qui ai besoin d'intervenir dans vos cœurs. Pas besoin de commentaires. Et Isaïe poursuit, et c'est mon dernier point pour ce matin, c'est ce que Dieu va faire. Quand on regarde ce constat, Dieu qui réalise vos cultes, changez. C'est votre vie. Quand on regarde parfois l'Église, quand on regarde nos vies, quand on regarde les chrétiens, mais il est où Dieu? Mais il est où le projet de Dieu? On voit que ce que Dieu va faire, on voit que c'est sa rébellion et l'incohérence est insupportable à Dieu. Mais pourtant, le projet de Dieu n'est pas remis en cause. La participation de son peuple est remise en cause. Et on le sait dans la suite, Israël va être puni pour son désobéissance. Et c'est ce que Dieu va dire tout au long d'Ésaïe. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Ça, c'est le verset 20. Verset 24, c'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires. Je me vengerai de mes ennemis. C'est l'Éternel qui parle. Il annonce quoi? Son châtiment. Son jugement. Avant, vous aviez un passé glorieux. Maintenant, vous avez un présent et un avenir qui sera désastreux. Vous serez jugés. Qu'en pensez-vous? C'est arbitraire, quelque part. Mais prenons cette illustration pour essayer de nous comprendre. J'imagine qu'on est déjà tous allés chez le médecin, malade. On se sait malade, on ne se sait pas en forme. Et le médecin fait son diagnostic. Et à la fin de la consultation, il va vous dire « Faites telle chose, prenez tel médicament et je vous conseille de suivre tel régime. Attention, ne sortez peut-être pas les prochains jours. Restez au lit, restez calme, prenez telle chose. Faites telle hygiène de vie. » Le patient rentre chez soi, mais il n'obéit pas. Sa maladie va s'aggraver. Il ne va pas guérir. C'est qui le responsable? Le médecin qui a posé un bon diagnostic et qui a donné l'ordonnance? Ah non, c'est le patient qui n'a pas voulu écouter son médecin. Ici, on est pareil. Dieu, dans sa grâce, dans sa générosité, n'a pas caché notre état. Il a montré que nos cœurs étaient durs. Il a posé le vrai diagnostic, tel un médecin. Il a montré qu'on est incohérent. Il a montré qu'on a des cœurs durs. Il montre la conséquence de nos actes. Il montre aussi le résultat et l'aboutissement de ce choix. Il montre aussi, si tu poursuis. Dieu montre même, tu es dans une situation de pétrin, mais Dieu, voilà, mais tu n'écoutes même pas dans cette situation-là, tu n'es même plus capable de crier à moi. Et malgré ça, Dieu continue de nous offrir la grâce, la vie, tout au long de ce chapitre. Mais il arrive aussi un point de non-retour. Le jugement est inévitable. Si nous refusons de l'écouter, si nous nous acharnons dans notre rébellion, si nous rejetons le traitement qu'il nous propose, les conséquences seront destructeurs. Et on le voit dans ce passage. Et c'est Dieu qui va intervenir. On voit, c'est « je ferai, je porterai, je te débarrasserai ». Ceux qui le rejettent vont être massacrés, on pourrait dire, c'est dur, hein, vont être mis ultimement à l'écart de la présence de Dieu. Nous devons de l'écouter. Et c'est le message que Ésaïe va faire tout au long. Écoutez Dieu, écoutez Dieu. On se fait Dieu tellement à notre image. En fait, on est parfois obligé de se dire Dieu, il nous a créés. C'est notre créateur, il est obligé de nous aimer. On est quelque part, on se voit tellement exceptionnel, tellement gentil. Comment Dieu ne pourrait-il pas m'aimer? Tu vois tout ce que je suis capable de faire, tout ce que je suis de bien. Il ne peut pas s'empêcher de nous faire des cadeaux. Et pourtant, Dieu dit, si tu persistes dans ta rébellion, tu seras écarté de moi. Et nous voyons même au verset 4 que son propre peuple, peuple d'Israël, va être l'ennemi de Dieu. Ce que Dieu aime par-dessus tout, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ce qu'il aime avant tout, c'est sa justice, sa sainteté, sa gloire, sa perfection. Et qu'il mérite seul notre adoration. Il est exclusif. Sa justice passe avant notre propre personne. Et là, Encore dans ces derniers versets, si vous le relevez, bon, c'est précieux, c'est presque caché, on peut passer outre, mais Dieu donne une autre réponse. Il montre qu'il est en train d'agir. Et il parle du processus de la métallurgie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans la métallurgie, mais ou qui ont travaillé. Je vais lire le verset 25. Je porterai de nouveau la main contre toi, je te débarrasserai de tes impuretés, comme avec de la potasse, et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Il est en train de parler de purification. Il est en train de parler d'enlever les impuretés, de tout ce qui doit être détruit. Et si nous réfléchissons comment Dieu rachète un peuple saint, comment Dieu est en train de se constituer un peuple qui lui appartient, et Dieu est en train de dire par le jugement, par la purification. J'ai besoin de vous purifier, de vous passer par le filtre, par le feu, quelque part. Et c'est vrai, si on réfléchit, le salut, Dieu nous accorde le salut par quoi? Par son jugement. Et on oublie ça. Ne séparons pas le salut du jugement. Parfois, en nous écoutant, on a l'impression qu'il y a le Dieu méchant, le Dieu qui juge, le Dieu qui détruit, le Dieu qui sanctionne. Et de l'autre côté, le Dieu qui aime, le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui offre le salut, le Dieu qui fait grâce. La Bible démontre que les deux ne s'excluent pas. Ils sont même indissociables. Et c'est ça le message d'Ésaïe. C'est ça le message, quelque part, de l'Évangile, de la croix. Le salut est indissociable de son jugement, de sa colère. Comment Dieu rend juste les pécheurs qui lui font du mal? Comment Dieu offre son pardon, son salut? À travers le jugement. Dieu obtiendra le résultat qu'il attend par sa justice. On est sauvés, nous sommes sauvés par son jugement, parce que sa colère est retombée sur Jésus-Christ, parce qu'il est mort à notre place. Dieu sauve par la purification, par le jugement. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Cène, enfin sous peu, et on va se rappeler de ça. La colère de Dieu contre notre rébellion, contre notre incohérence, elle est retombée sur son Fils. Il est mort, il a dû mourir à notre place, afin de nous purifier. On passe par le sang. Je suis à la fin. Simplement, voilà, quelques pépites. Ésaïe annoncera tout au long d'Ésaïe, va nous parler du Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai pu faire facilement le lien. C'est Dieu qui va nous purifier. Et on le voit dans les quelques versets, là, il y a quelques indices. Sion sera racheté. Sion, c'est quoi? C'est Jérusalem. On sait que de Jérusalem viendra le salut. C'est là que Jésus-Christ viendra et donnera sa vie pour chacun d'entre nous. Au verset 26, il y a l'idée d'un règne qui sera rétabli, des juges qui seront en place, des conseillers tels qu'ils étaient au début. Il est parlé d'une nation qui était autrefois prospère. Et quelle était la nation prospère à l'époque? C'était le règne davidique. Voilà où il y avait un temps de paix, un temps où le peuple a pu avancer avec justice et droiture devant l'Éternel. Jésus-Christ, c'est le descendant de David. Verset 27, il y a l'idée d'un reste. Ceux qui se convertiront par la justice. L'idée d'un reste. Si nous pouvons subsister, c'est l'idée du reste aussi qu'on retrouve dans cet Ésaïe 1 et qu'on va retrouver tout au long d'Ésaïe. Si on peut subsister, c'est par grâce, c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu est intervenu dans notre vie, on le sait. Ceux et celles qui veulent proclamer le nom de Jésus-Christ, hein. Pour ceux qui, tout à l'heure, on va partager ces éléments, on veut se souvenir de ce que Christ a fait. Il nous a choisis comme un reste, il nous a fait grâce, il nous a purifiés. Je ne méritais rien, j'étais rebelle, j'étais coupable, j'étais condamnable, je suis incohérent. Mais pourtant, Dieu m'a sauvé. Amen. Propose simplement de nous incliner encore là, dans la prière. Seigneur, simplement merci pour ta parole, merci pour Ésaïe, pour ce prophète qui a parlé en ton nom et qui a rédigé ce que tu lui as confié, qui est aussi là pour notre instruction ce matin. Merci parce que comme un bon médecin, tu nous ne caches rien. Tu nous montres nos incohérences, tu montres notre péché, tu nous montres notre rébellion. Et pourtant, malgré nos cœurs durs à ta parole, malgré nos oreilles difficiles à entendre ta voix, tu nous tends la main. Tu nous fais grâce. Tu continues à nous tendre la main. Merci parce que toi, tu restes fidèle. Merci Seigneur parce que ton projet n'a pas été remis en cause et que dès le départ, dès la création, tu as souhaité nous envoyer ton Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'était ça la réponse à ce cœur dur, à ce cœur rebelle, à ce cœur incohérent. C'est cette purification. Tu as désiré payer à notre place ce que nous n'étions pas capables de payer. Seigneur, on veut être émerveillé parce que tu désires nous restaurer. Et tu te fais ce peuple. Seigneur, garde-nous de l'arrogance. Garde-nous de cette tête haute qui nous croirait supérieure aux autres. Aide-nous à avoir toute cette humilité qui découle de toi. De voir en nous nos incohérences, de voir nos imperfections, de voir ce qui te déplaît et de pouvoir les déposer devant ta croix. C'est vrai, Ésaïe a martelé ici, dans ce passage, cette incohérence, cet abandon de toi, Seigneur. Garde-nous de t'abandonner, de ne pas t'écouter. Au contraire, rends-nous sensibles à ta voix, chacun. Seigneur, merci parce que nous pouvons vivre le pardon, nous pouvons vivre la restauration, parce que tu as tout payé. Et nous voulons te remercier pour cela, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.